VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Chérubin Gaby Dorcil et Anastasie Tudiesch, bienvenue dans cette édition du mercredi 23 novembre 2016. Au sommaire ce soir, au Cameroun, affrontement entre des jeunes et la police à Bamenda, ils se sentent marginalisés par rapport au reste du pays.
Au Zimbabwe, la justice suspend les poursuites contre les anciens combattants opposés au régime de Robert Mugabe.
Le Maroc a claqué la porte du sommet Afrique-Monde Arabe à Malabo. Rabat n'a pas supporté la présence du Front Polisario.
États-Unis, Donald Trump nomme la première femme de son futur cabinet. La gouverneure de la Caroline du Sud, Nikki Haley, doit représenter les États-Unis à l'ONU.
Les sports et l'économie, c'est juste après le journal.
De violents heurts qui auraient fait 3 morts ont opposé lundi et mardi de jeunes manifestants aux forces de sécurité à Bamenda, fief anglophone de l'opposition au Cameroun. Les détails avec Nanit Talani.
Parmi les 3 victimes, 2 auraient été tués par balles et 1 lors d'affrontements entre groupes rivaux, selon Joshua Ossi, vice-président du Social Democratic Front, le SDF, principal parti d'opposition, dont le fief est Bamenda, ville anglophone réputée frondeuse. Aucune confirmation de ce bilan n'a pu être obtenue de sources indépendantes ni auprès des autorités. Le gouvernement a assuré être en train de rassembler les informations. Un calme précaire règne dans la ville. Lundi, de jeunes manifestants sont descendus dans les rues en marge d'une grève des enseignants anglophones qui avaient appelé le personnel scolaire et élèves à rester chez eux. Les manifestants ont brûlé des pneus et la police est intervenue pour les disperser. Les jeunes de Bamenda réclament l'instauration du fédéralisme au Cameroun et estiment que le délégué du gouvernement est un obstacle au développement de la ville.
Suspension ce mercredi au Zimbabwe des poursuites intentées contre 5 anciens combattants de la guerre d'indépendance. Ils sont accusés d'avoir sapé l'autorité du président Robert Mugabe en dénonçant ses méthodes dictatoriales. Le point avec Dili Diko.
Lors de la 2e audience devant un tribunal d'Harare, le juge Osoa Mujaya a reproché au parquet ses demandes répétées de report des débats. Il a imposé au parquet de renouveler toute la procédure avant d'obtenir une nouvelle date d'audience. Le porte-parole de l'Association nationale des anciens combattants et 4 autres de ses responsables sont poursuivis pour avoir écrit en août un texte accusant le président de comportement dictatorial. Ils avaient aussi ajouté qu'ils ne soutiendraient pas une nouvelle candidature de Robert Mugabe à la présidence. Considérés comme des piliers du régime, les vétérans de la guerre d'indépendance ont publiquement manifesté leur défiance au président l'été dernier. Le pays qui subit une grave crise économique et se voit secoué par des manifestations contre Mugabe qui, à 92 ans, est encore candidat à sa propre succession.
Coup de théâtre au sommet arabo-africain qui se tient aujourd'hui à Malabo, en Guinée équatoriale, pour protester contre la présence d'une délégation du Front Polisario. Le Maroc et plusieurs alliés ont boycotté les rencontres. Claire Morin-Gibourg.
C'est la présence de l'emblème de la République arabe sahraoui démocratique dans la salle qui a déclenché la furie des autorités marocaines. Elles ont dénoncé une entité fantoche et ont quitté la réunion. 8 pays arabes alliés lui ont emboîté le pas. Un coup d'éclat alors que le Maroc multiplie ses efforts pour réintégrer l'Union africaine qu'il avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la même RASD. Rabat considère le Sahara occidental comme partie intégrante du royaume. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, milite pour l'indépendance de cette ancienne colonie espagnole et réclame un référendum d'autodétermination.
Au Niger, quelques 800 personnes meurent chaque année dans les accidents de la route. L'imprudence des conducteurs et le mauvais état des routes sont pointés du doigt par le ministère nigérien des Transports, John Linden.
Les services techniques du ministère nigérien des Transports ont recensé plus de 4000 morts dans 31 290 accidents de la route entre 2011 et 2015, soit une moyenne de 800 décès par an et plus de 15 000 blessés graves, dont certains handicapés à vie. Ces chiffres ont été publiés à l'occasion de la Journée africaine de la sécurité routière. Excès de vitesse, téléphone au volant, effet de stupéfiants et de l'alcool sont les principales causes selon Omar Hamidou Tchana, ministre nigérien des Transports. Il a mis en cause le mauvais état des routes et des véhicules, mais précise que les conducteurs sont à l'origine de 60% des accidents. Selon les statistiques officielles, le Niger détient plus de 37% du taux des accidents de la route dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
La branche nord du Mouvement populaire de libération du Soudan, SPLMN, important groupe rebelle soudanais, s'est engagé aujourd'hui à ne pas recruter de force ou utiliser des mineurs en signant un plan d'action avec l'ONU à Genève. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a exprimé son soutien à l'armée syrienne, une position en contradiction avec ses alliés du Golfe. Ancien chef de l'armée égyptienne, devenu président en 2014, M. al-Sissi a été l'artisan d'un rapprochement avec la Russie, principal soutien du régime du président Bachar al-Assad.
Le ministère de l'Environnement tunisien a annoncé aujourd'hui un plan pour mettre fin à la détérioration de la situation environnementale. Le ramassage des ordures étant devenu aléatoire à travers le pays. Une dizaine de centres de transfert, c'est-à-dire l'étape entre le ramassage et la décharge, devraient voir le jour d'ici fin 2007, début 2008, en majorité dans le Grand Tunis. Par ailleurs, pour éviter que les gravats ne soient dispersés au mauvais endroit, l'État est prêt à payer pour les récupérer afin qu'ils soient concassés pour produire du sable ou du gravier pouvant servir à la construction des routes ou à enfouir les déchets, selon le ministère. Au premier trimestre 2017, les autorités comptent en outre lancer une grande campagne pour réveiller les consciences et instaurer une police environnementale qui dépendra des municipalités. Le gouvernement veut enfin que les municipales se tiennent avant la fin 2017 et va présenter une initiative pour débloquer le projet de loi les régissant au Parlement.
Selon une étude sur la citoyenneté numérique en Afrique, le continent compte 4000 cyberactivistes dans 7 pays. L'enquête précise que malgré la qualité médiocre des signaux, des centaines de communautés dialoguent, collaborent ou contestent, et dans l'écrasante majorité des cas, sur Facebook et WhatsApp.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu Donald Trump a choisi la jeune gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, pour devenir la prochaine ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. Les détails tout de suite avec Tatiana Mosso.
Nikki Haley, 44 ans, est la fille d'immigrés indiens. Étoile montante du Parti républicain, elle devient la première femme nommée dans son administration par Donald Trump. Elle va succéder à Samantha Power, actuelle ambassadrice américaine à l'ONU. Madame Haley avait soutenu dans un premier temps le candidat Marco Rubio pendant la primaire républicaine. Elle a toutefois souligné avoir voté pour Donald Trump à la présidentielle. La jeune femme a peu d'expérience en politique internationale, mais apporte une dose de diversité dans l'équipe du magnat de l'immobilier. Nikki Haley a accédé à une certaine notoriété lorsque, gouverneure de Caroline du Sud, elle avait fait décrocher en juillet 2015 le drapeau confédéré, symbole de la ségrégation qui flottait depuis des années devant le Parlement de son État. Elle a été la première femme gouverneure de Caroline du Sud et aussi la plus jeune à la tête d'un État américain.
Les troupes irakiennes ont coupé ce mercredi la dernière voie d'approvisionnement des djihadistes du groupe État islamique entre Mossoul et la Syrie, resserrant l'étau sur la deuxième ville d'Irak où doit encore se jouer une bataille urbaine. Cette avancée signifie que les 3000 à 5000 djihadistes présents à Mossoul, selon les estimations américaines, sont désormais cernés de tous les côtés. Bagdad a lancé l'offensive contre Mossoul le 17 octobre, tandis que des troupes arabo-kurdes tentent d'avancer vers Raqqa, la capitale de Daesh en Syrie, depuis le 5 novembre.
12 civils ont été tués aujourd'hui dans un raid aérien dans le nord-ouest du Yémen. C'est ce qu'ont indiqué des habitants qui ont attribué l'attaque à la coalition arabe opérante au Yémen sous commandement saoudien. Le conflit au Yémen a fait plus de 7000 morts et près de 37000 blessés depuis son intensification avec l'intervention de la coalition en mars 2015. Ces chiffres proviennent de l'ONU.
Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord pour alourdir encore les sanctions internationales contre la Corée du Nord à la suite de son 5e essai nucléaire et de plusieurs tests de missiles, indique aujourd'hui l'AFP citant des sources diplomatiques. La Chine est la seule alliée et le principal partenaire économique de la Corée du Nord. Il faut dire qu'une résolution. Un vote plutôt devrait intervenir la semaine prochaine et les diplomates s'attendent à ce qu'une résolution soit adoptée malgré des réserves de la Russie. Depuis le début de l'année, Pyongyang a procédé à deux essais nucléaires, dont le plus puissant qu'il ait jamais effectué le 9 septembre, et à une vingtaine d'essais de missiles balistiques au mépris des résolutions de l'Organisation des Nations Unies.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a encouragé aujourd'hui les deux dirigeants chypriotes à poursuivre leurs efforts pour trouver un accord sur la réunification de l'île de Chypre. Dans un communiqué, M. Ban constate l'échec des négociations qui se tenaient en Suisse depuis 10 jours et qui n'ont pas produit les résultats escomptés sur les critères d'ajustement territorial. L'un des principaux obstacles à un accord concerne la délimitation de frontières internes entre les deux entités, chypriotes turcs et chypriotes grecs, qui formeraient une future fédération. Les deux entités doivent aussi régler la question de la spoliation des biens. Ces dossiers sont particulièrement complexes à résoudre plus de 40 ans après la division de l'île en 1974.
Dans une résolution adoptée à Strasbourg, le Parlement européen se dit gravement préoccupé par le développement rapide de l'activité inspirée par le Kremlin en Europe, y compris la désinformation et la propagande.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Notre page économique ce soir, c'est avec Morgane Guiriec.
Shell souhaite délocaliser son procès à Abuja. La compagnie pétrolière anglo-hollandaise, accusée de pollution au Nigeria, est actuellement poursuivie à Londres. Les plaignants estiment que Shell tente ainsi de bénéficier du système judiciaire nigérian corrompu selon eux. Nigeria toujours, la population reste confiante malgré la récession. 86% des Nigérians pensent que la situation économique va s'améliorer et dans les 12 prochains mois, d'après l'Institut international des statistiques. Les récessions ont normalement tendance à déprimer, mais pas au Nigeria. En janvier, Gallup International disait que le Nigeria est le pays le plus optimiste au monde lorsqu'il s'agit de prospérité économique. Et enfin, le Maroc, ses alliés arabes et la Somalie ont quitté le sommet Afrique-Monde arabe qui se tenait à Malabo, en Guinée équatoriale, sur le thème de la coopération économique. Rabat est contre la présence du Front Polisario qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental, considéré comme partie intégrante du royaume. Ces tensions interviennent alors que le Maroc tente de réintégrer l'Union africaine.
Au sport maintenant avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Anastasie.
On commence avec la CAN féminine 2016.
Oui, match nul un partout entre les favorites du groupe B, le Nigeria et le Ghana. Quant au Mali, il espère se reprendre ce soir face au Kenya.
Et la Ligue des champions en Europe, c'est la 5e journée.
Match nul un partout entre le CSKA Moscou et le Bayer Leverkusen. Monaco-Tottenham, 2-1, victoire des Monégasques. Et puis le carton de la soirée, 8-4, avec le trio Reus, Dembélé et Kagawa. Dortmund a fait étalage de sa richesse offensive face au Legia Varsovie. Les Allemands qui restent en tête de ce groupe avec 12 buts. Il s'agit du match le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions. Quant au Real Madrid, le tenant du titre, il a validé son billet pour les 8e de finale en s'imposant contre le Sporting du Portugal. 2-1 grâce au but des Français Raphaël Varane et Karim Benzema. Match nul 0-0 entre le FC Copenhague et le FC Porto. Leicester bat 2-1 à Bruges. Enfin, la petite victoire de l'Olympique lyonnais sur le terrain du Dynamo Zagreb lui offre une petite chance de se qualifier pour les 8e de finale. Quant à la Juventus de Turin, elle a battu sur fond de polémique arbitrale le FC Séville 3-1.
Les autres matchs ce soir?
Dans le groupe A, l'affiche Arsenal-Paris-Saint-Germain pour terminer à la première place du groupe. Les deux équipes avaient fait match nul, un but partout à l'aller. Le Ludogorets face au FC Bâle. Dans le groupe B, tout est encore possible. Le Beşiktaş affronte le Benfica et Naples accueille le Dynamo Kiev. Dans le groupe C, pour Barcelone, une victoire sur la pelouse du Celtic sera suffisant pour se qualifier. Et même un match nul si Manchester City ne s'incline pas contre Mönchengladbach. Dans le groupe D, tout est déjà plié d'avance puisque l'Atlético Madrid et le Bayern Munich sont déjà qualifiés. Le seul enjeu, c'est la première place. À suivre ce soir en Russie, à Rostov, le Bayern Munich en déplacement. Quant à l'Atlético Madrid, le club accueille le PSV Eindhoven.
Et on finit avec le championnat de basket nord-américain NBA.
Les Lakers de Los Angeles se sont offert une victoire de prestige face à Oklahoma City, 111 à 109. Après un début de saison catastrophique, la Nouvelle-Orléans a enchaîné une troisième victoire de suite sur le parquet d'Atlanta, 112-94. Défaite de Chicago à Denver, 107 à 110. Et victoire 107 à 103 devant Portland des Knicks de New York.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiach et Chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour et la première escale est au Maroc.
La Rabita Mohammadia des Oulémas a lancé des cahiers scientifiques pour déconstruire le discours de haine et de violence des extrémistes. L'objectif de ces experts est d'expliquer aux jeunes des concepts clés de l'islam tels que le djihad, la guerre sainte ou la jizya en partant de la vision authentique du Coran et de la Sunna. Nathalie Barge a joint à Casablanca le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abadi.
Ce sont des concepts que véhicule Daesh et autres qui s'attellent à générer des glissements interprétationnels pour convaincre la jeunesse de rejoindre les rangs de Daesh. Et ces concepts sont au nombre de 25. On vient d'en publier 7. Il y aura 9 qui vont apparaître après 4 semaines et puis le reste va apparaître dans 2 mois. Et donc c'est une déconstruction du discours extrémiste et une reproduction de la compréhension originale avec preuve à l'appui que les compréhensions véhiculées, prônées par Daesh ne sont pas des compréhensions originales et pures. Et ceci par le biais de démonstrations se basant sur la charia et se basant sur l'exégèse reconnue par les musulmans. Donc ce sont eux qui auront à déconstruire et à répondre dans le futur proche.
Alors dans la plupart de ces concepts, il en est un qui est extrêmement important, bien sûr, sinon le plus, le fameux concept du djihad. Quelle explication donnez-vous notamment aux jeunes pour qu'ils comprennent plus à même le concept du djihad ?
Donc, dans le recueil qui est apparu, il a été trouvé que le djihad comprend 36 phases. Et ce n'est que les 3 dernières phases du djihad où on peut parler de bataille ou de guerre. Mais cela commence dans le tréfonds des clichés des êtres humains. Donc c'est une purification interne qu'on appelle djihad. Puis il y a le djihad de la pauvreté, le djihad de l'ignorance. 36 genres de djihad et ce ne sont que les 3 derniers qui contiennent cette dimension se basant sur les arsenals, sur les armes, etc. Et c'est un djihad de répulsion. Ce n'est même pas un djihad d'attaque, c'est surtout de répulsion pour défendre une nation, pour qu'elle ne soit pas assaillie par un ennemi donné. Voilà. Ce sont 36 genres et Daesh zappe tous ces genres-là et passe directement au dernier, au 36e.
Comment expliquez-vous le fait que autant de jeunes au Maroc, finalement, se laissent séduire par le discours de Daesh ?
Il faut se rappeler le fait que maintenant le Maroc est passé au 7e rang. Et ce 7e rang, lorsqu'on prend conscience du fait que les Marocains n'ont pas besoin de visa pour aller en Turquie et que Istanbul est une direction touristique et que les billets peuvent aller jusqu'à 90€ le billet aller-retour, on comprend que le nombre est insignifiant parce que ce sont des territoires ouverts et malgré cela, les Marocains ne sont que 7e dans le classement. Et ceci parce qu'il y a une approche pluridimensionnelle complémentaire pour pouvoir conscientiser les masses de jeunesse du danger que représente un tel discours et de telle personne.
Docteur Ahmed Abadi, secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas au Maroc.
Dans Washington Forum ce jeudi, Tatiana Mosso avec vous. Retour sur la COP22 à Marrakech après 2 semaines de discussion. Un sommet marqué par l'incertitude suite à l'élection aux États-Unis du climato-sceptique Donald Trump. Quelle avancée dans l'application de l'accord de Paris ? Quel bilan pour le continent africain, notamment les partis des Verts ? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec nos invités.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Ici aux États-Unis, le revirement du président élu Donald Trump sur un certain nombre de ses positions continue de dominer l'actualité. Dans un entretien mardi avec des journalistes du New York Times, quotidien qu'il n'a cessé de critiquer, le prochain locataire de la Maison Blanche a par exemple renoncé à l'idée de poursuites judiciaires contre sa rivale démocrate Hillary Clinton. Il se dit maintenant ouvert à l'accord de Paris et reconnaît l'impact humain sur le changement climatique. Pour une analyse de ces changements d'opinion, Timothée Donongmaï a joint le professeur Jim Caesar, enseignant de sciences politiques à l'Université de Virginie à Charlottesville.
Pendant la campagne, il a souvent changé de position, puisqu'il n'a pas vraiment une philosophie cohérente. Le fait qu'il change de position n'est pas surprenant. Quand même, je dirais que c'est un peu stratégique. Ça ne va pas toucher sa base de soutien, parce que la base de soutien n'est pas concerné avec les détails comme ça.
Quel poids accorder à ces prises d'opposition qui sont, ainsi que vous l'avez dit, stratégiques?
À mon avis, il y a des positions de fond qui sont les plus importantes pour se soutenir. Le fait, par exemple, qu'il veut limiter l'immigration. Alors ça, il ne peut pas changer cette idée-là. D'autres faits, l'idée de protéger le travail pour les Américains envers le libre-échange, ça c'est clé. Donc c'est les positions comme ça qui sont plus importantes que les autres, qui étaient un peu de divertissement même pendant sa campagne. Il ne faut pas prendre au sérieux tous ces mots parce qu'il était différent dans ce sens-là. Il a parlé souvent en tant que comédien.
Les pays étrangers alliés des États-Unis ont suivi avec beaucoup d'inquiétude l'élection de M. Trump. Est-ce que ces changements de position vont atténuer leurs appréhensions?
Alors, en mon avis, oui. Dans ce sens-là, c'est bon pour la position des États-Unis. Le fait, par exemple, qu'il ait renoncé, selon l'interview, l'idée qu'il veut poursuivre l'utilisation des moyens extrêmes pour interroger les autres. Il a renoncé à ça. Ça, c'est important, même pour la politique intérieure. Le fait qu'il a dit peut-être qu'il va réétudier le fait du climat, le changement du climat, il n'a pas pris position ferme, mais il a dit qu'il est ouvert à d'autres arguments. Le fait qu'il ne va pas suivre une enquête contre Madame Clinton, ça va dire que peut-être la politique des États-Unis n'entre pas dans une période de très, très grand conflit. Donc ça va apaiser, je crois, les autres.
Le professeur Jim Caesar, enseignant de sciences politiques à l'Université de Virginie à Charlottesville.
En Haïti, les résultats de la présidentielle de dimanche dernier devraient être publiés dans 4 jours. Mais déjà, 2 partis ont chacun revendiqué lundi la victoire, enfreignant le mot d'ordre du Conseil électoral provisoire qui avait appelé tous les acteurs politiques à attendre la publication des résultats officiels. Des centaines de sympathisants de Maryse Narcisse, du parti Fami Lavalas de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, ont investi les rues des quartiers les plus pauvres de Port-au-Prince, scandant la victoire. Éric Manirakiza a joint dans la capitale haïtienne un activiste et leader social, Luino Robillard.
Pour le moment, Haïti est calme, mais il y a eu des tensions, surtout des manifestations au centre-ville, les gens de Lavalade, très sympathisants d'Aristide, qui vont en aller pour célébrer ou pour démontrer qu'ils ont gagné ou pas. Mais c'est seulement un SCP qui a le droit de dire qui gagne ou qui perd. Et je pense que ça arrive à la fin de la semaine.
Est-ce que c'était une manifestation qui a mobilisé beaucoup de monde?
C'était des gens, surtout des gens là, dans le quartier populaire, qui ont toujours pour les Lavalas. Mais en général, j'étais bien en Haïti que l'élection était bien passée. Malgré pour moi, c'est vraiment une menace pour la démocratie, puisque les gens ont commencé à beaucoup de problèmes avec les élections. Puisque c'est seulement 23% des Haïtiens qui participent aux élections. Ça, c'est une question que je pense qu'on doit commencer à poser. Pourquoi les gens ne participent pas aux urnes? Pourquoi les gens ne participent pas dans les élections? Mais je pense que la réponse est claire. C'est la raison pour laquelle que le politicien ne fait rien pour Haïti, piller les pays il y a beaucoup de gens qui ont commencé à poser des questions. Pourquoi aller aux urnes? Pourquoi aller voter?
Mais il y a eu plus de 6 millions de votants.
Oui, on devrait avoir 6 millions de votants. Mais si tu fais le calcul, dans 6 millions, tu fais le calcul, tu peux avoir 23%. C'est vraiment bas. C'est vraiment bas. Et la participation, c'est vraiment basse. Oui, il y a des gens qui votent, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne votent pas. Et je connais beaucoup de gens qui ne votent pas. Et ils ont raison.
L'activiste Louino Robillard joint à Port-au-Prince.
En Afrique, moins d'un tiers de la population a accès à Internet. On constate cependant un véritable boom des réseaux sociaux, en particulier auprès de la jeunesse, qui utilise Facebook et WhatsApp comme mode d'expression privilégié. Dili Diko a joint Pauline Bend, représentante de la Fondation Hirondelle au Niger.
Je pense qu'il y a, il y a différentes raisons. L'accès à l'Internet, déjà dans un premier temps, il est souvent limité aux villes, aux centres urbains, alors que la majorité de la population ne se trouve justement pas dans ce centre urbain. Ensuite, je pense qu'il y a la question des infrastructures. Dans les régions en dehors des capitales, dans les régions dans lesquelles on trouve l'infrastructure, elle n'est souvent pas de très bonne qualité et elle reste quand même inaccessible en termes de coût. Je pense qu'il y a une question de localisation. Où sont les infrastructures Internet? Elles sont dans les grandes villes. Il y a une question de coût d'accès. Il y a une question de qualité aussi de ces connexions-là qui font que... Il y a très peu de gens qui ont accès.
On constate que malgré le fait qu'il n'y ait qu'un tiers de la population africaine qui ait accès à Internet, il y a quand même un véritable boom en fait, des réseaux sociaux en Afrique. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe?
Les réseaux sociaux ont fait quelque chose qui est peut-être de briser le gap ou les barrières qui existaient entre le monde entre guillemets éduqué qui a été à l'école et le monde entre guillemets moins éduqué. Quand on prend l'Internet classique, le mode de connexion, c'était souvent, il faut un ordinateur, il faut savoir se servir d'un ordinateur pour accéder à l'Internet, il faut prendre un abonnement, etc. Aujourd'hui, vous avez trois choses. Il y a les smartphones qui sont de plus en plus répandus. Vous rendez sur les marchés, chez les artisans, vous allez supprimer le nombre de personnes qui se baladent dans la rue avec des téléphones nouvelle génération qui peuvent leur permettre d'aller sur Internet. Vous avez aussi, je pense, qu'il y a une sorte d'offensive des opérateurs de téléphonie mobile qui ont proposé des packages à des prix très très bas pour permettre aux gens d'aller justement sur des réseaux sociaux. Il existe des offres spéciales Facebook ou spéciales WhatsApp avec un très faible prix, hein, pour 100 francs vous avez un accès. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus facile aux gens d'accéder à l'Internet à partir de ces terminaux téléphones mobiles.
De plus en plus, la jeunesse africaine utilise les réseaux sociaux comme un moyen d'expression et de mobilisation. Comment est-ce que vous expliquez cette nouvelle tendance?
Il y a eu la mode des réseaux sociaux qui ont été pour quelque chose. Dans les révolutions, dans le printemps arabe, on a dit, après il y a des études qui ont montré que l'impact devait être relativisé. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont cette facilité-là d'aller, de créer des groupes de discussion, par exemple, d'échanger sur des forums. C'est vraiment quelque chose qui est immédiatement accessible. Si vous voulez, par exemple, être entendu sur une radio, c'est un peu plus compliqué.
Pauline Bend, représentante de la Fondation Hirondelle au Niger.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous remercions Lionel Gaïma qui en a dirigé la mise en onde avec l'assistance technique de Audrey Regis à la console. Présentation Anastasie Tudiech et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs. Merci également à nos fans sur Facebook. Maintenant, la conversation, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.